Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
La plongée en apnée, c'est le monde des libertés, parce qu'on est absolument libre d'évoluer dans toutes les dimensions de l'espace. On est libéré de la gravité terrestre, et c'est vraiment cette sensation-là de pouvoir voler sous l'eau.
RTL. On est fiers de montrer un autre visage de l'apnée que celui qui est connu par le grand public, qui est le Grand Bleu. On est des gens tout à fait normaux, on n'est pas des hommes poissons non plus, hein, donc on a envie de respirer, on est bien content de respirer à la surface.
Jusqu'à 22h,
la curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Notre invité est champion d'apnée. Il fait partie d'un club très fermé, celui des hommes qui sont descendus au-delà des 100 mètres de profondeur. Activité à risque. Guillaume Néry a failli perdre la vie en septembre dernier. Bonsoir Guillaume Néry.
Bonsoir.
Bienvenue. Bonsoir. On est très heureux de vous recevoir dans notre studio de la curiosité. On va raconter comment vous avez découvert l'apnée, quelles sont vos sensations en plongée. On va découvrir aussi vos films magnifiques qui ont touché le grand public. Mais d'abord, cet accident qui aurait pu vous être fatal. On est le 10 septembre à Chypre. Qu'est-ce que vous préparez là-bas? Un championnat, une compétition?
Alors je suis à Chypre pour préparer les championnats du monde, et toujours avant un gros championnat, il y a des petites compétitions préparatoires qui permettent de roder l'organisation et les athlètes. Et donc on est dans cette compétition, c'est le dernier jour de cette petite compétition, et je suis tellement en forme que je vais tenter le record du monde avant les championnats du monde. Donc c'était une manière de marquer un peu mon territoire, et puis d'envisager d'aller encore plus profond pendant le championnat.
Donc le record du monde, c'était moins 128 mètres,
sachant que deux jours avant, j'avais battu mon propre record à moins 126 mètres, donc je m'en étais rapproché, et j'avais quand même grande confiance en la réussite de ce record, parce que j'étais en grande forme. Et là est arrivé l'impensable, les juges... Alors c'est les juges de l'organisation se sont trompés dans la mesure du câble, puisqu'on descend le long d'un câble qui est mesuré. On annonce avant de plonger la profondeur exacte à laquelle on veut aller. Donc j'avais annoncé 129 mètres.
Ah, ils règlent ça pour vous?
Voilà, le câble est réglé exactement à la profondeur que je tente.
Sauf qu'ils se sont trompés.
Ils se sont trompés. Et ils m'ont mis 10 mètres de plus, c'est-à-dire 139 mètres.
Alors nous, on ne se rend pas forcément bien compte. C'est beaucoup 10 mètres de plus.
Alors pour essayer de. J'essaie toujours de trouver un moyen pour le grand public de comprendre. Il faut s'imaginer 10% d'écart dans une performance maximum. C'est comme si Renaud Lavillenie, au lieu de partir sur 6 mètres 16, on l'envoyait sur 6 mètres 70. C'est impensable. C'est les records du monde sont battus pas centimètre par centimètre, nous. Alors, c'est mètre par mètre.
Là, c'est visuel d'un seul coup, effectivement.
Voilà. Nous, 10 mètres de plus, c'est énorme. C'est 5 ans d'entraînement, 10 mètres. C'était du jour au lendemain.
Est-ce que vous vous en rendez compte d'une certaine façon? C'est-à-dire, vous descendez, j'imagine que c'est un peu... Comment dire, vous avez votre horloge, vous savez combien de temps vous mettez peut-être pour descendre. À quel moment vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas?
Alors effectivement, l'apnée, c'est un sport qui développe un sixième sens, une conscience du temps, une espèce d'écoute des sensations qui est très forte. Mais il faut quand même avouer que passer à une certaine profondeur, pour moi c'est au-delà de 120 mètres, les sens sont un petit peu altérés parce qu'il y a l'ivresse des profondeurs. Et donc j'ai senti qu'il y avait un petit quelque chose de différent. Mais ça m'a pas semblé si ahurissant que ça. Je me suis dit c'est un peu plus long que d'habitude.
Donc vous les descendez ces 10 mètres supplémentaires?
Et je les descends ces 10 mètres et je me retrouve à 139 mètres.
Et là qu'est-ce qui se passe à 139 mètres?
Vous rien de spécial. Je suis en bas, je me dis bon ben j'y suis, c'est bon, ça s'est bien passé.
Il faut prendre une plaque.
Voilà, il faut prendre un témoin. On appelle ça la plaquette. C'est un petit témoin que l'on remonte en surface pour montrer au jury que on a atteint la profondeur. C'est quelque chose de symbolique aussi. On descend pour ramener quelque chose. La performance est validée avec une caméra qui filme l'arrivée au fond. On a un profondimètre officiel et puis on a cette petite plaquette que l'on remonte. Et donc là, sur le moment, je me suis juste dit bon, c'est un peu long, mais tout va bien, donc c'est reparti, on repart en surface. Et puis là, c'est le trou noir, j'ai plus de souvenirs. En regardant les images, on se rend compte que je suis remonté quasiment jusqu'à la surface. J'ai fait une perte de connaissance, qu'on appelle une syncope, à quelques mètres de la surface, à entre 8 et 10 mètres de la surface, donc j'étais finalement pas très loin de réussir. Mais c'est 10 mètres de plus en descendant, plus 10 mètres de plus à la remontée. Au final, ça fait 20 mètres de plus.
Qu'est-ce que vous avez? Vos poumons sont atteints?
Donc là, je perds connaissance. Ouais. Donc là, c'est ce qu'on appelle les apnées de sécurité qui me récupèrent et qui me remontent à la surface le plus vite possible pour éviter que j'inhale de l'eau pendant que je suis inconscient. Parce que le risque principal, c'est la noyade. Donc là, dès qu'on est bien encadré et qu'on est pris en charge, il n'y a plus, absolument plus aucun risque. Le seul gros problème que j'ai pu avoir, c'est que j'ai fait un œdème pulmonaire. C'est-à-dire que descendre beaucoup plus profond que ce pour quoi mon corps était préparé a entraîné des lésions au niveau des poumons. Et donc, un œdème, c'est une petite hémorragie, c'est-à-dire du sang qui passe là où il ne devrait pas passer. Et c'est là où ça peut être problématique. Quand on est en syncope, qu'on a besoin d'oxygène et que au moment où on reprend connaissance, on a besoin d'être alimenté à 100% d'oxygène et que les échanges sont perturbés par le fait qu'il y ait du sang dans les poumons, là, il y a gros danger. Et c'est là où, finalement, j'ai eu chaud.
D'une certaine façon, on peut dire que vous avez battu ce record du monde, sauf qu'il n'a pas été homologué, c'est ça ?
Non, je ne l'ai pas battu. Parce que pour battre un record, il faut descendre et remonter et être parfaitement conscient.
Ça, c'est la règle.
C'est la règle. Sinon, si on homologue un record avec quelqu'un qui n'est pas inconscient,
on va à 150 et on s'évanouit.
Exactement.
Et on monte, bien sûr.
Et là, ça serait du suicide. Donc, non. Je suis effectivement allé à cette profondeur où personne n'est allé en palmant, comme moi. Mais je ne suis pas remonté. Donc, le record ne peut pas être homologué.
Mais alors, attendez. Donc, déjà, vous êtes déçu, j'imagine. Vous êtes en souffrance. Oui, vous êtes déçu. Vous en voulez énormément à l'organisation de cet événement.
Ah bah, je suis passé par tous les... Ah oui, c'est impensable, hein, ce niveau-là de la compétition. D'autant plus sur une tentative de record du monde, où normalement, une tentative de record du monde, il n'y en a pas tous les 4 matins. Donc il y a encore plus de sécurité qui doit être mise en place. Et oui, je suis déçu, je suis triste, j'ai un sentiment d'injustice. Mais en même temps, on est un petit milieu, et les gens qui ont fait l'erreur, c'est des gens que je connais très bien, donc c'est presque des amis. Donc au final, les jours ont passé et puis.
Mais vous avez arrêté la compétition, Guillaume Néry, après ça ?
Alors oui, effectivement, cet accident ne m'a pas permis de participer au championnat du monde. Donc grosse frustration. Et puis au-delà de ça, ça m'a permis de réfléchir sur la suite que je voulais donner. Et ça faisait un petit moment que je me posais la question de l'arrêt de la compétition, de l'arrêt de la quête des records. Et disons que cet accident-là m'a vraiment permis de prendre cette décision plus sereinement.
Guillaume Néry, vous racontez votre histoire dans un livre Profondeur, écrit en collaboration avec Luc Levaillant, qui est publié chez Artaud Poche. Vous l'avez dit, le mot, vous plongez en poids constant. Ça veut dire quoi ?
Alors, en poids constant, c'est-à-dire que je descends et je remonte sans assistance extérieure. Je ne prends pas de poids pour descendre. Je n'ai pas d'aide pour remonter. Donc, mon poids reste constant pendant toute la durée de la plongée.
Vous descendez à la force des palmes, en fait ?
Voilà, j'ai une monopalme. On peut prendre des palmes normales ou une monopalme. Je descends sans assistance et je remonte en nageant comme un dauphin. On essaie d'avoir le même mouvement d'ondulation que les mammifères marins. C'est pour bien faire la différence avec le no limit, qui est la discipline qu'il y a dans le Grand Bleu. Si vous avez vu le Grand Bleu, vous vous souvenez que les plongeurs descendent avec une machine, on appelle ça une gueuse, et remontent avec un ballon gonflé d'air, sans faire aucun effort. Donc ce sont vraiment les deux disciplines qui permettent d'aller en profondeur.
Le Grand Bleu, musique signée Eric Serra. On continue d'explorer le Grand Bleu sur RTL. Dans un instant, on vous raconte comment notre invité Guillaume Néry a découvert l'apnée. Il avait 14 ans, il était en 3e. Ou comment un concours entre potes peut changer votre vie. Restez avec nous.
Si votre défaut, c'est la curiosité, alors vous êtes bien sur RTL.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité de découvrir l'apnée et la vie de notre invité Guillaume Néry, double champion du monde d'apnée. Imaginez, il prend une inspiration et une seule et il descend à moins 126 mètres et il remonte à la seule force du corps en un peu plus de 3 minutes. Guillaume Néry, avant de devenir un art de vivre, l'apnée, ça a commencé pour vous par un défi entre potes. Vous aviez 14 ans, c'est ça ?
Je pense qu'on a tous fait ça un jour. Quand on est un adolescent, on aime bien se lancer des défis. Puis un jour, c'était arrêter de respirer. Sauf que moi, c'est devenu une obsession parce que me rendre compte que le corps était capable de rester tenir plus en plus longtemps sans respirer, j'ai trouvé ça absolument fascinant.
C'est le défi qui vous donnait envie de continuer. Vous teniez combien de temps sans respirer quand vous étiez jeune comme ça ?
Je me rappelle la toute première fois, j'avais tenu 1 minute 30 et je m'étais fait battre par mon pote qui avait fait 2 minutes 09. Mais très rapidement, en plusieurs semaines, j'étais resté dans les 4 minutes ou un peu plus. Et c'est ça qui est absolument fascinant, c'est de se retrouver avec l'impression d'agoniser à 1 minute 30 et en quelques semaines être capable de faire plus de entre 2 et 3 fois plus.
C'est la maîtrise de son corps qui attire, qui possède, qui crée une obsession, parce que vous avez l'air d'être obsédé par l'apnée.
C'est la maîtrise du corps, c'est cette idée que on a des limites que l'on se construit mentales, et finalement ces limites-là, on est capable de les faire voler en éclats parce que le corps a une capacité absolument insoupçonnée d'adaptation, et ça a vraiment été la porte d'entrée pour moi dans cette activité-là.
Alors vous racontez cette histoire dans un livre Profondeur, publié chez Artaud. Tout ça aurait pu rester au stade du défi, mais il y a un reportage qui a joué un rôle important, reportage de l'émission Envoyé spécial. Vous découvrez qui dans ce reportage ?
Alors je découvre la légende de l'apnée dans les années 90, Umberto Pellizzari, l'Italien, qui à cette époque-là avait tous les records du monde, et qui me fait comprendre finalement que mes concours d'apnée dans mon lit, ça servait pas à grand-chose. Par contre, utiliser cette capacité-là pour aller dans les profondeurs et découvrir cet autre univers fascinant, qui est le monde sous la surface. Ben voilà, c'était ça en fait le vrai intérêt. Et donc là, il y a un véritable coup de foudre et un véritable déclic. Et en cherchant, à l'époque, Internet c'était pas autant développé qu'aujourd'hui. J'avais même pas Internet à la maison. Et donc je cherche par tous les moyens comment faire ça, comme un autre sport. Et je découvre que le seul club d'apnée en France, c'était à Nice chez moi. Donc je me dis, décidément.
Le destin.
Le destin m'amène vraiment dans une direction, il faut que je la suive, il faut que je la prenne, et voilà, c'est comme ça que tout a commencé.
Et vous allez aussi trouver, Guillaume Néry, un mentor, un guide, il s'appelle Claude Chapuis. Qui est-il ?
Alors Claude Chapuis, c'est la personne en France et dans le monde qui, après la sortie du Grand Bleu, a décidé qu'il fallait transformer l'apnée telle qu'elle était pratiquée à l'époque. À l'époque, c'était quelques individus un peu isolés dans le monde qui voulaient battre chacun son petit record. Lui s'est dit, pour que l'apnée devienne une véritable discipline, il faut fédérer, il faut rassembler tous les passionnés, il faut créer un véritable mouvement. C'est lui qui a créé la première fédération d'apnée qui s'appelle l'AIDA, qui existe aujourd'hui encore. Il est encore le président de cette fédération d'apnée, donc Association Internationale pour le Développement de l'Apnée. Au jour d'aujourd'hui, c'est développé dans 50 pays, des championnats du monde, des championnats européens, des championnats français, et c'est parti de lui, c'est parti de Nice, et c'est lui qui m'a absolument tout transmis en termes de valeurs et de philosophie.
Mais vous êtes un ado, vous êtes un adolescent. Comment ils réagissent vos parents quand vous leur dites « je vais m'inscrire dans un club pour faire de l'apnée »
Ça a été le combat au début. Ça a été le combat parce que c'est vrai que c'était pas très conventionnel, et autant aujourd'hui on entend beaucoup parler, autant à l'époque ça n'existait pas, un gamin qui veut faire de l'apnée. Et donc ça a été très difficile à faire accepter, et puis dans la douleur c'est passé, et puis voilà, aujourd'hui ils l'ont parfaitement accepté, mais je comprends vraiment la difficulté. Maintenant je suis papa moi aussi, donc je comprends ce que ça veut dire d'être inquiet pour son fils. Ma mère a peur de l'eau, elle n'a jamais mis la tête dans l'eau, donc forcément.
Et alors j'imagine, quand vous gagnez votre premier record du monde à l'âge de 20 ans, votre vie, elle change, le regard de vos parents aussi.
Ah oui, ça a été ce premier record du monde à 20 ans, en 2002, ça a été un véritable déclic, c'est un tremplin, c'est le moment où je réalise un rêve, et en même temps, je comprends que c'est pas la fin de quelque chose, mais c'est plutôt le début d'une véritable aventure. Et là, je décide vraiment de me lancer totalement dans la discipline, et j'ai dans l'idée d'en faire vraiment plus qu'une passion, d'en faire un métier, et j'essaie de suivre les traces du grand champion français qui est décédé en avril 2007, Loïc Leferme, qui a été très connu dans les années 2000, apnéiste blond aux cheveux longs, très emblématique, et qui a été pour moi un véritable guide. Il a battu plusieurs records du monde, et j'ai vraiment voulu suivre sa trace et son chemin.
En 2010, vous réalisez avec votre compagne Julie Gauthier un film qui sera vu plus de 20 millions de fois sur le net, Free Fall. On va écouter la musique qui est la musique de ce film. Je vous propose de nous décrire les images, Guillaume Néry. C'est un plongeur qui avance sous l'eau. Il marche sur le sable.
Alors
ensuite...
là, je marche sur le sable. On est aux Bahamas, au Dean's Blue Hole, au bord du trou bleu le plus profond du monde. Et donc je m'avance au bord de ce gouffre, et puis je m'arrête. C'est un peu mise en scène, hein. Oui. Je m'arrête et puis je contemple le vide, ce trou béant qui est un trou bleu, mais qui est en fait en réalité un véritable trou noir. Et puis après quelques secondes d'hésitation, je décide de m'envoler comme peuvent faire ceux qui font du base jump. Et je m'envole comme un oiseau dans ce trou et je pars explorer les profondeurs en volant.
C'est vrai que c'est ce que donne, c'est la sensation que donne ce film. Il est magnifique. Si vous l'avez pas encore vu, allez regarder ça sur internet. Free Fall. Et puis vous avez vécu pas mal d'expériences, par exemple avec cette chanteuse, comment vous dire, une grande chanteuse. Beyoncé, vous avez participé à l'un de ses clips. Vous nous raconterez comment.
Vous écoutez RTL.
Et je reste des heures à regarder la mer.
C'est un continent d'une diversité, d'une richesse extraordinaire. Il n'y a pas une seule mer, un seul océan. Il y a des milliers et des milliers de formes de vie différentes. Selon mon plonge,
la mer.
Chez moi, c'est la Méditerranée. C'est un endroit que j'affectionne.
On voit danser le long du golfe clair.
Chaque endroit a une forme de magie.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Notre guide pour cette plongée, c'est donc Guillaume Néry, double champion du monde d'apnée. Vous avez décidé d'arrêter la compétition, vous nous le racontiez tout à l'heure, après un accident où vous avez failli perdre la vie. Je disais juste avant le 21h que la notoriété liée à vos titres de champion du monde, à vos records, à ces films qui ont été partagés par des millions, des dizaines de millions de personnes dans le monde sur Internet, ça vous a permis de faire une sacrée rencontre avec Beyoncé. Vous avez participé à l'un de ses clips, c'est ça?
Exactement, oui.
En fait, alors, c'est quoi l'histoire?
On a tourné un film qui était pas mal partagé, qui s'appelle Ocean Gravity, qui était pas mal vu, et donc c'est arrivé entre les mains de maison de disques qui a pris contact avec nous. Et donc quand je dis nous, c'est ma compagne et moi-même,
Julie Gauthier.
Julie réalise ce clip pour Beyoncé et elle a mis en scène donc cette histoire de course-poursuite entre une autre apnéiste qui s'appelle Alice Modolo, qui est en équipe de France, et moi-même. Et donc ça a permis d'accompagner la musique de Beyoncé.
Mais vous l'avez rencontrée?
Absolument pas. Non. Mais ce qui est fou, c'est que quand on a tourné le clip, Beyoncé n'était pas encore dans la boucle. En fait,
elle savait pas qu'elle allait chanter cette chanson.
Ce titre, c'est Naughty Boy, ouais, avec Beyoncé. Et à la base, c'était juste Naughty Boy. Et Beyoncé finalement est arrivée un peu plus tard, ouais, quand elle a entendu la chanson, les paroles. Elle a dit OK, je veux être dans ce. J'ai envie de participer et de poser ma voix là-dessus. Bon, forcément, on a tous dit bienvenue.
comment vous gagnez votre vie?
Alors,
là, j'imagine vous touchez de l'argent pour en réalisant un clip comme celui-là, mais comment vous gagnez en général?
Non, on a gagné très 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 peu d'argent en faisant ça. Bon. Mais non, on est des autodidactes, nous, et c'est ça qui a été passionnant dans notre aventure, c'est que on a monté un peu notre petite entreprise, et puis c'est très diversifié. J'ai mes sponsors qui m'accompagnent, qui continuent de m'accompagner malgré l'arrêt de la compétition. Je fais des conférences pour grand public et pour les entreprises. On a notre boîte de production, donc on vend nos images. Je fais des photos aussi que je vends. Je fais des stages. Vous partagez la passion avec tous ceux qui ont envie d'essayer l'apnée. C'est assez multiple.
Et vous écrivez des livres.
Et voilà. Et
Guillaume Néry en collaboration avec Luc Levaillant, Profondeur chez Artaud. On raconte une descente.
Ah bah oui, moi j'ai envie de savoir ce que ça fait à travers vos mots et votre expérience, Guillaume Néry. Allez, on se prépare à descendre pour atteindre par exemple vos moins 126 mètres qui est votre record. Ça se passe comment? Les premiers mètres déjà. Donc vous descendez le long d'un câble.
Alors voilà, il y a un câble qui est tendu à la verticale. Déjà, je prends une dernière grande inspiration qui dure assez longtemps, pendant laquelle on prend vraiment toute l'énergie dont on va avoir besoin.
Il y a une manière, j'imagine, évidemment, de prendre cet air.
Oui, c'est une respiration très ample et on essaie d'utiliser vraiment tout l'ensemble des poumons pour remplir chaque centimètre cube de nos poumons. Et puis on quitte la surface et là, c'est le passage d'une frontière. Et les premiers mètres, les 10-15 premiers mètres, on a la poussée d'Archimède qui nous retient vers la surface, donc on doit fournir un effort assez important. Mais malgré tout, il faut garder en tête qu'il faut être très économe, puisque toute l'énergie que l'on va dépenser, c'est l'énergie qu'on aura en moins pour remonter en surface. Donc les 15-20 premiers mètres, on doit essayer d'être très fluide, avoir le mouvement le plus proche possible d'un dauphin. Et puis au fur et à mesure qu'on s'enfonce dans les profondeurs, plus la pression va écraser l'organisme. Donc on va ressentir cette pression qui va tout doucement nous oppresser. Et la pression va écraser tous les volumes d'air qu'il y a dans, dans le corps, donc les poumons.
Donc ça fait sortir l'air ?
Non, ça ne le fait pas sortir, ça comprime l'air. C'est une espèce de compression. L'air se comprime à l'intérieur des poumons. Donc les poumons deviennent de plus en plus petits. Et donc le corps devient de plus en plus dense. Et à une certaine profondeur, entre 25 et 30 mètres, le corps devient lourd du fait de cet écrasement des poumons.
Et donc, il descend plus naturellement.
On n'a plus besoin de palmer.
Ah, d'accord.
Et donc, à un certain moment, on chute sans faire de mouvement. Et donc là, c'est le début de la phase la plus merveilleuse de toute la plongée. C'est cette phase de chute libre où pendant presque 100 mètres, on va se laisser entraîner par les profondeurs sans faire aucun effort. On a l'impression de voler sous l'eau. On a un sentiment de liberté qui est intense et en même temps d'harmonie.
Il y a de l'émotion dans votre voix quand vous racontez
Les
souvenirs qui remontent.
C'est pas que des souvenirs, je continue de plonger, heureusement.
Même aussi profond ?
Pas aussi profond, mais je compte cet été aller à 100 mètres, retrouver ces profondeurs-là, parce que c'est une zone de confort encore pour moi. Et donc, on se laisse happer par ces profondeurs-là, et puis passé 40-50 mètres, on rentre dans une zone où il fait de plus en plus froid. Et c'est paradoxal, parce que on rentre dans un monde qui est hostile, hein, quand on y pense. Il fait froid, la lumière devient de plus en plus rare, la pression écrase de plus en plus l'organisme, et pourtant on se sent de mieux en mieux. Donc
il y a une forme, quoi, il y a de l'adrénaline, évidemment.
Ah non, il n'y a pas du tout d'adrénaline, justement. C'est tout sauf de l'adrénaline. On est dans un moment de méditation et un moment de calme absolu, de sérénité absolue, et on ressent une espèce de communion avec l'élément qui est très très forte. Et là, à ce moment-là, il faut surtout pas vouloir lutter, il faut surtout pas vouloir affronter l'eau, affronter la pression, parce que c'est ça qui peut être dangereux. Il faut totalement lâcher prise et se laisser aller. Et puis on passe la zone des 100 mètres, et là on ressent que l'on est dans un autre univers, on ressent l'ivresse des profondeurs qui arrive tout doucement. Et puis quand j'arrive aux 126 mètres, il y a tout un tas de sentiments qui se mélangent. Je suis à un endroit où j'ai bien conscience qu'il n'y a pas grand monde qui peut aller, mais en même temps, je me sens extrêmement bien. Et c'est assez fascinant parce que je ne prends pas beaucoup de temps. Je reste une seconde, deux secondes le temps de prendre la plaquette. Mais si je regarde autour de moi, j'ai une vision que personne ne peut voir sur Terre.
Et qu'est-ce que vous voyez ?
Justement, on voit l'infini tout autour de nous. On voit du bleu sans fond, jusque dans les grandes profondeurs. On lève la tête, on voit pas la surface. On regarde devant, derrière, à gauche, à droite. C'est une espèce d'uniformité et on voit que du bleu. Essayez de réfléchir sur Terre, il n'y a nulle part où on a ça. On a toujours le contact avec la Terre, on a toujours cette référence-là. Et là, on perd toutes ces références. Et donc, c'est une espèce d'expérience, finalement, de ce que peut être l'infini. Et c'est un sentiment qui est fabuleux. Alors ça dure très peu de temps, mais c'est très intense. Et puis là, il faut remonter en surface. Et alors là, le retour, il est difficile, parce que on est attiré par le fond, et donc il faut palmer très très fort. Et donc toute la remontée, il faut essayer d'aller vite en surface tout en étant très économe. Et puis quand on arrive en surface, on est très heureux de respirer.
Merci beaucoup Guillaume Néry, quel bonheur d'avoir partagé cette expérience avec vous. Votre livre, il faut le lire, parce qu'il y a tout ça, il y a cet art de vivre en fait que vous décrivez aussi. Le titre, c'est Profondeur, c'est publié chez Artaud, livre écrit en collaboration avec notre confrère Luc Levaillant. Merci encore Guillaume.
Merci à vous.
Vous écoutez RTL.